britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Demandez le New York Tribune. Engagez-vous dans l'armée, les gars. Trois frères repas par.
Quand les Irlandais sont arrivés, la ville était en pleine ébullition. Depuis l'époque de la Grande Famine, ils sortaient des bateaux en flot ininterrompu. Et on les avait accueillis à bras ouverts.
Retournez d'où vous venez, Irlandais de malheur !
Un cadeau de bienvenue que vous n'êtes pas prêts d'oublier !
Mangeurs de patates !
L'Amérique aux
Amériques ! Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'actualité des grandes migrations en cours nous impose d'aller chercher dans le passé des précédents de semblables dimensions portant de semblables douleurs et suscitant de semblables interrogations en termes moraux, bien sûr, au premier chef, mais aussi économiques, politiques ou religieux. Il fallait donc choisir. Et ce matin, c'est sur le cas de l'Irlande et des Irlandais que nous allons braquer notre attention. La diaspora irlandaise serait, nous dit-on, constituée aujourd'hui de 70 millions d'âmes, plus grande même que les colonies chinoises hors de Chine. Dans l'histoire de l'Irlande, au long des âges, on découvre des flux quasi incessants de départs qu'ont provoqué des ressorts divers. Mais c'est au mi-temps du XIXe siècle que ces exils se sont brusquement intensifiés, sous l'effet de la grande famine provoquée par la crise du mildiou, ravageant la pomme de terre dont dépendait la survie alimentaire des habitants. En quelques années, au moins 1 million de personnes sont mortes et 2 millions ont été forcés de quitter leur île dans des conditions dramatiques quant au voyage et quant à l'accueil des terres promises, celles-ci étant pour beaucoup closes ou hostiles, en dépit des compassions et des solidarités. Avec Philippe Chassaigne, professeur d'histoire des îles britanniques à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux, nous allons donc nous mettre en quête de similitudes avec notre présent. Et vous allez voir combien nombreuses elles peuvent être.
Oh, Father dear, I oftentimes hear you talk of Erin's Isle, her lofty scenes and valleys green, her mountains rude and wild. They say it is a pretty place wherein might dwell. Oh, why did you abandon it? The reason to me tell. Oh, son, I love my native land with energy and pride, till a blight came up. Crops, my sheep and cattle died. The rent and taxes were so high I could not them redeem. And that's the cruel reason why I left old Skibbereen. Oh, it's well I do bleak December day. The landlord and the sheriff came to drive us all away. They set my room.
Philippe Chassaigne, bonjour. Il s'agit ici d'un chant traditionnel du 19e siècle, Dear Old Skibbereen, qui est interprétée par Sinéad O'Connor et qui nous plonge d'entrée de jeu dans la mélancolie, dans l'évocation du drame de l'Irlande. Je traduis le début, puis après je vous passerai le relais. « Ô cher père », c'est le fils de l'émigré qui veut savoir ce qui s'est passé. « Ô cher père, j'entends souvent que vous parlez de l'île d'Irlande, ses vues incomparables, ses vertes vallées, ses montagnes rudes et sauvages. Ils disent que c'est un beau pays où un prince pourrait vivre. Alors pourquoi l'abandonnas-tu? Donne-moi la raison. » Et le père répond:
« Mon fils, j'aimais mon pays avec énergie et fierté, jusqu'à ce que ce fléau ravage toutes mes récoltes et tue mon bétail. Les loyers et taxes étaient à payer, je ne pouvais rembourser. Voilà la raison pour laquelle j'ai dû quitter mon vieux Skibbereen. » Il évoque aussi la pourriture de la patate, la crise du mildiou et l'impossibilité de continuer à vivre dans un pays où il n'y a plus rien à manger et on ne peut plus faire face aux obligations imposées par les propriétaires, qui sont des propriétaires absentéistes anglais.
Lui, je me souviens du jour de décembre glacial, quand le propriétaire et l'huissier sont venus nous chasser, ils ont mis le feu à la maison.
Voilà, ce sont les évictions, les expulsions de tenants, donc de locataires, de fermiers qui ne pouvaient plus payer les taxes.
Et la mère meurt, Dieu et son âme, elle repose sur le sol enneigé, elle s'évanouit de désespoir à la vue de la désolation alentour, elle ne s'est jamais relevée, mais elle a quitté cette vie pour les rêves immortels, etc. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles je suis parti. On a là une sorte de... d'éventail des raisons pour lesquelles les Irlandais ont quitté si nombreux au cœur du 19e siècle leur île dans des conditions dramatiques.
Oui, là, le milieu du 19e siècle, c'est vraiment une période de très profonde crise dans l'histoire de l'Irlande. Il y a tout d'abord la crise de la pomme de terre, donc le mildiou, qui détruit les pommes de terre, les tubercules, et qui prive les Irlandais d'une part essentielle de leur alimentation, mais également de semences pour assurer la récolte suivante. Donc en fait, la grande famine de 1845-1849 est une famine beaucoup plus importante, parce que beaucoup plus longue, durable, donc sur 4-5 années, que les famines qui l'avaient précédée. En fait, l'Irlande avait déjà connu des famines, mais elles avaient été beaucoup moins longues que celles-ci.
Alors avant de considérer cela de plus près, dans la préoccupation de chercher des échos aujourd'hui, je voudrais que nous revenions plus en arrière. On a beaucoup quitté l'Irlande au cours des siècles, mais de façon numériquement moins importante et pour des motifs variés. On peut revenir au moins jusqu'à l'époque de la fin du Moyen-Âge ou le début de l'ère moderne, comme on dit.
Oui, l'Irlande a toujours été une terre d'émigration. Cela est dû tout d'abord à la façon dont les Irlandais n'ont pas accepté et donc se sont révoltés, ont pris les armes contre la domination anglaise. Les Irlandais étaient très attachés au catholicisme et ils ne voulaient absolument pas entendre parler de l'église d'Angleterre qu'Henri II a créée après 1534. Donc ils se soulèvent et notamment il y a la Grande Guerre, la guerre de 9 ans qui dure de 1594 à 1603, donc qui occupe la dernière décennie du règne d'Elisabeth Ier. Donc à la fin de cette guerre de 9 ans qui est marquée par la victoire des Anglais, il y a ce qu'on appelle la fuite des comtes, Flight of the Earls. Ce sont les comtes irlandais, les nobles irlandais catholiques qui quittent l'île en 1607. Ils sont une petite centaine, 90 à peu près, et donc ils partent s'installer notamment en France, évidemment pays catholique où il y a des affinités religieuses que l'on comprend.
Alors de ce point de vue-là, l'accueil des Français est intéressant, il y a un regard... disons assez distancié et même souvent hostile des Français. Je relève dans le journal fameux de Pierre de l'Étoile en 1606 cette formule: grands experts à propos des Irlandais qui sont à Paris, grands experts en art de gueuserie et excellents en cette science, par-dessus tous ceux de cette profession, habiles de la main et à faire des enfants. Il y a à la fois l'idée de la fripouillerie des nouveaux venus et de leur capacité d'extension démographique qui inquiète également.
Oui, on pourrait dire que là aussi, tout est déjà dit. Donc, gueuserie, des Irlandais qui sont portés à la violence. Et là, c'est un trait de caractère que l'on trouve souligné tout au long de l'histoire des Irlandais. C'est un des gros reproches qui est fait aux immigrés irlandais, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où tout le monde souligne leur propension à se battre pour des raisons absolument futiles, mais des bagarres qui peuvent dégénérer en coups et blessures, voire même déboucher sur des homicides.
Et puis fripouille, on les trouve aussi Tirlaine ou Vide-Gousset.
Voilà, oui, c'est l'idée de l'Irlandais qui est une sorte de criminel né. Et c'est vrai que même dans un pays catholique, les Irlandais sont regardés avec suspicion, d'une part pour ces traits de caractère réels ou supposés qu'on leur prête, mais aussi parce que le catholicisme irlandais, c'est la foi du charbonnier, c'est un catholicisme instinctif qui tranche avec les pratiques plus élaborées que l'on rencontre dans les grands pays catholiques du continent.
Il n'y a pas qu'à Paris qu'on se méfie. Je vois que dans la ville de Nantes, on vote un crédit de 800 livres afin de déporter déjà les Irlandais vagants. Et d'autre part, toujours en 1606, deux vaisseaux rapatrient 1700 de force, 1703 expulsés de Rouen. Et on affrète deux navires pour renvoyer chez eux quelques centaines de vagabonds irlandais qui battent le pavé de Paris. Dès cette époque, il y a les expulsions retournées chez vous.
Voilà. Le fait que les Irlandais soient prompts à la bagarre, bon, c'est quelque chose qui effectivement pose un problème à l'ordre public dans les villes que vous évoquez, mais c'est aussi quelque chose qui en fait une population particulièrement prisée quand il s'agit de recruter des armées, car le métier des armes a été une des raisons pour lesquelles les Irlandais ont quitté leur île tout au long du XVIe et du XVIIe siècle. Il y a des soldats irlandais en Espagne dans les années 1580, il y a des soldats irlandais en France au milieu du XVIIe siècle, il y en a en Italie, à Milan, en Sicile, au XVIIIe siècle. Donc ces mercenaires irlandais, on les trouve sur tous les champs de bataille du continent au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui sont deux siècles, on le sait, qui sont riches en affrontements entre les puissances en Europe.
Les Irlandais comme bagarreurs ou combattants, cela peut être pris en mauvaise part ou au contraire être valorisés si on peut les installer dans les armées.
Les Irlandais font de très bons soldats, tout le monde est d'accord sur ce point au XVIIIe siècle.
Et il se trouve de surcroît que les événements qui bouleversent les îles britanniques au XVIIe siècle vont contribuer également à cet exil, puisqu'il y a successivement l'exécution de Charles Ier, la période de Cromwell et ensuite le conflit entre Guillaume et Jacques.
La période cromwellienne est une période très sombre dans l'histoire de l'Irlande. Les Irlandais s'étaient révoltés en 1641 et avaient ensuite passé un accord avec Charles Ier, qui passait pour être crypto-catholique. Et lorsque, en 1649, Charles Ier est décapité, et donc le Commonwealth est instauré, eh bien, Cromwell se met en passe de mater cette révolte irlandaise. Et en fait, il y a donc, entre 1649 et 1652, une campagne militaire qui est extrêmement violente. L'épisode le plus célèbre, évidemment, c'est le siège de Drogheda, le 10-11 septembre 1649. Et donc, les troupes cromwelliennes réussissent à s'introduire dans la ville beaucoup plus rapidement que les défenseurs de la ville ne l'avaient escompté. Ils pensaient que le siège durerait plusieurs mois et que du secours viendrait pour les délivrer. Et donc la ville est entièrement livrée au pillage et les estimations vont entre 700 et 3000 personnes qui sont passées au fil de l'épée. Donc là, on a vraiment une période très très sombre et qui illustre bien l'hostilité, on peut même parler de haine des Anglais vis-à-vis des Irlandais. Pour les Anglais, depuis la guerre de 9 ans à la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les Irlandais sont une population sauvage. Les Irlandais sont toujours prêts à se révolter et donc on ne peut absolument pas leur faire confiance. C'est une des raisons justement qui amène à l'union de l'Irlande au royaume de Grande-Bretagne en 1801, l'idée étant qu'il vaudrait mieux contrôler l'Irlande directement depuis Londres que de lui laisser ses institutions de royaume indépendant, même si le souverain irlandais était le souverain anglais.
Mais alors du coup, les combattants, comme vous le disiez, irlandais, se répandent sur le continent et on les trouve de façon tout à fait remarquable, remarquée, topique, lors de la bataille, la fameuse bataille de Fontenoy entre Anglais et Français, le 11 mai 1745. Vous savez, on nous avait appris dans nos manuels que l'extrême courtoisie des uns et des autres avait voulu qu'ils se disent, je crois que c'est un peu imaginaire, messieurs les Anglais tirez les premiers, messieurs les Français. Quoi qu'il en soit, du côté des Français, il y a des Irlandais qui se rappellent en particulier le traité de Limerick. Limerick qui avait été le dernier moment, finalement, de la bataille entre les Jacobites, c'est-à-dire les fidèles de Jacques II, qui étaient catholiques, contre les fidèles de Guillaume, qui venaient des Pays-Bas et qui, lui, était protestant. J'ai choisi pour vous un poème de Thomas Davis, qui est un écrivain du 19e siècle et qui s'appelle Fontenoy, précisément. On va voir la place des Irlandais. C'est une lecture de Pierre-Yves Le Prince dans les Après-midi de France Culture, le 7 août 1975.
Ils étaient féroces, ces exilés, qui autrefois étaient gais. 50 ans d'erreur habitaient leur cœur. Les traités rompus, l'encre à peine séchée, les maisons détruites, les églises brûlées, leurs femmes en pleurs, leurs prêtres chassés comme des loups. Chacun avait la revanche dans le regard sur Fontenoy. Sur Fontenoy. Juste sur Fontenoy. Juste sur Fontenoy. Rien de plus noble que ces soldats en ce jour-là. Leur cri de guerre était « Souviens-toi de Limerick ». Thomas Davis, « Après la bataille de Fontenoy », poème, 1745.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'est le temps des oies sauvages, Philippe Chassaigne.
Effectivement, on peut dire que entre Drogheda, que j'évoquais tout à l'heure, 1649, et 1691, le traité de Limerick, eh bien, le contentieux s'approfondit entre Anglais et Irlandais. Une fois que l'Irlande est reconquise, pacifiée par Cromwell, les Irlandais sont la victime de toute une série de mesures discriminatoires, dirait-on aujourd'hui. Donc, ce sont les lois pénales. Les lois pénales qui frappent les Irlandais de toute une série d'interdictions. Ils ne peuvent pas posséder d'armes. Les Irlandais ne peuvent pas être élus au Parlement de Dublin. Les Irlandais catholiques voient leurs terres confisquées. Ils ne peuvent pas, évidemment, pratiquer leur culte. Donc, ces lois pénales qui sont mises en place après 1650-1652, elles sont, oui, atténuées un peu sous la Restauration après 1660 et surtout sous Jacques II qui règne de 1685 à 1688 puisque c'est un roi catholique. Mais en 1688, il y a la glorieuse Révolution, Jacques II est chassé du trône et c'est son gendre, Guillaume d'Orange, qui devient roi avec son épouse la reine Marie, devient souverain conjointement, donc c'est le règne de Guillaume III. En 1690, eh bien, Jacques II débarque en Irlande, donc pays catholique et qui considère-t-il est acquis à sa cause, et c'est vrai, pour récupérer son trône. Mais les armes en décident autrement, et après la bataille de la Boyne, en juillet 1690, eh bien, Jacques II repart d'Irlande, revient en France, et par le traité de Limerick, il renonce définitivement à sa couronne. C'est à ce moment-là que se produit, justement, cette fuite des les oies sauvages, hein, ce départ donc des nobles irlandais qui avaient rallié la cause de Jacques II, qui quitte l'Irlande pour le suivre en France. Il installe sa cour, Jacques II, à Saint-Germain-en-Laye. Et après 1690-91, eh bien, à nouveau, les lois pénales sont mises en place. Et tout au long du XVIIIe siècle, on assiste notamment à la dépossession des Irlandais catholiques de leur sol et propriétés qui sont désormais entre les mains de nobles anglais, pour la plupart écossais certains, mais protestants, qui ne résident pas en Irlande, mais qui en possèdent 75%, 80% du sol.
Ainsi se définit cette Irlande qui va être frappée au XIXe siècle par la grande famine, à quoi nous allons consacrer l'essentiel de notre conversation, Philippe Chassaigne. Un pays qui est très pauvre, avec ce déséquilibre social et ses oppositions religieuses. Voilà ce qui définit l'île à ce moment-là. Quand Gustave de Beaumont, vous savez, l'ami de Tocqueville, avec qui il avait fait son voyage en Amérique, qui s'intéresse beaucoup à l'Irlande. Lorsqu'il y vient, il écrit, par exemple, il évoque la misère nue, affamée, cette misère vagabonde et fainéante, cette misère qui mendie, couvre le pays entier. Elle se montre partout, sous toutes les formes, à tous les instants du jour. C'est elle que vous voyez la première en abordant au rivage de l'Irlande, et dès ce moment, elle ne cesse plus d'être présente à vos regards. C'est le livre de Beaumont qui s'appelle « L'Irlande politique, sociale et religieuse » d'où j'extrais ce passage. Tocqueville lui-même a écrit sur l'Irlande. Par amitié pour Beaumont, il n'a pas voulu en faire un livre, mais il en parle dans le texte que voici.
« Bientôt, je me trouvais à l'entrée du village, qui était bâti au fond d'une vallée, ou plutôt d'un ravin, que resserraient de chaque côté deux collines assez élevées et couvertes de pâturages. Au fond de ce ravin coulait un torrent. Aucun arbre ne s'élevait sur ses bords qui présentait ce spectacle de nudité qui accompagne presque tous les cours d'eau en Irlande. Je doublais le pas pour traverser plus vite ce malheureux village dont la vue me repoussait. Mais tout en passant, je ne pus m'empêcher de remarquer ce que j'avais déjà vu tant de fois en Irlande. Toutes les maisons qui faisaient file à ma droite et à ma gauche étaient faites de boue durcie au soleil et élevées en murs de hauteur d'homme. Le toit de ces demeures était formé de chaumes si anciens que l'herbe qui le couvrait se confondait avec les prairies qui garnissaient les collines voisines. En plus d'un endroit, je vis que les bois légers qui soutenaient cette fragile toiture avaient cédé aux efforts du temps et donnaient à l'ensemble de la demeure l'apparence d'un taupier sur lequel se serait appuyé le pied du voyageur. Ces demeures n'avaient en général point de fenêtres ni de cheminées. Le jour entrait par la porte, la fumée en sortait. Si l'œil pénétrait dans les maisons, il était rare qu'il y aperçût autre chose que des murs nus, une escabelle boiteuse et un petit feu de tourbe brûlant lentement et obscurément entre quatre pierres aplaties.
Ce texte de Tocqueville était lu par René Renaud dans le Collège des Ondes, le 24 janvier 1961. Voilà un pays qui est marqué par une très grande pauvreté, même par une profonde misère, on peut le dire.
Beaumont et Tocqueville visitent l'Irlande à quelques années d'intervalle, hein, puisque c'est à la fin des années 1820, début des années 1830. Cette Irlande, elle est marquée par la pauvreté, d'une part parce qu'il y a une très forte croissance démographique. Il y a 5 millions d'habitants en 1800, et au moment où Beaumont et Tocqueville visitent l'Irlande, on est à plus de 7 millions. Donc on évoquait tout à l'heure, à travers le texte que vous lisiez, la propension des Irlandais à faire des enfants. Ben on la voit là, effectivement, de façon tout à fait nette.
Ils n'ont pas lu Malthus, l'Écossais Malthus.
Ah non,
Malthus.
Ça, mais de toute façon, Malthus n'a pas été prophète en son pays, ni en Angleterre, ni en Écosse, ni en Irlande.
Quand il disait que pour l'essor économique, il ne fallait pas faire trop d'enfants.
Voilà.
Et comme disait le démographe Mao en France, il fallait tromper la nature. Il disait qu'on trompait la nature jusque dans les campagnes. Mais les campagnes françaises, pas dans les campagnes irlandaises, alors, que le curé l'interdit.
Voilà, dans les campagnes irlandaises, effectivement, on ne trompe pas la nature, c'est absolument certain. Donc, il y a déjà là, donc, cette croissance de la population. Ensuite, ce que j'évoquais tout à l'heure, les Irlandais catholiques, donc 80% de la, au moins 80% de la population, puisqu'il y a des protestants essentiellement dans le nord-est de l'île, en Ulster, les Irlandais catholiques ne sont pas propriétaires ou très peu propriétaires de leurs terres, bon, pratiquement pas propriétaires de leurs terres. Ils sont toujours de louer des parcelles aux propriétaires donc anglais, qui est représenté par un gérant, un middleman, un intermédiaire. Mais avec la croissance démographique, eh bien les parcelles ensuite sont partagées entre les enfants. Donc on se retrouve ensuite avec des familles qui sont sur des parcelles de plus en plus petites, de plus en plus fragmentées. Néanmoins, il faut payer le loyer, le cens, et pour cela, eh bien il faut cultiver des céréales, puisque c'est le produit qui rapporte le plus à la vente, ou élever du bétail.
Oui, mais les céréales, on est obligé de les exporter ou de les donner aux propriétaires, voilà. Et alors on est amené à ne vivre que de pommes de terre.
Que de pommes de terre. Le régime alimentaire du paysan irlandais typique, ce sont essentiellement des pommes de terre consommées, donc essentiellement bouillies, agrémentées, si possible, de quelques légumes du jardin.
Dans le meilleur des jours.
Voilà, le meilleur des jours, de quelques légumes du jardin. Bon, il est rare qu'une famille irlandaise n'ait pas un porc aussi, hein, donc qui d'ailleurs vit dans la maison au milieu de la famille. C'est quelque chose qui paraît comble de l'abomination aux yeux des Anglais.
Un Irlandais moyen consomme 5 à 6 kilos de pommes de terre par jour. Et quand on s'aperçoit que ce sont aux pommes de terre que va s'attaquer le Phytophthora infectans, autrement dit ce qu'on connaît en France sous le nom de mildiou, on comprend pourquoi la catastrophe va devenir épouvantable.
Effectivement, une famine terrible qui est provoquée par cette destruction, donc le mildiou qui provoque la pourriture, hein, des pommes de terre, qui sont transformées, disent les contemporains, en une espèce de bouillie puante. L'Irlandais n'a plus de quoi manger, et l'Irlandais donc ne peut pas non plus préparer la récolte suivante. Et il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de semences. Donc la pomme de terre, par l'abondance de sa production, permettait à la fois de manger. Et en fait, même si évidemment les repas étaient répétitifs, mais enfin bon, à l'époque, c'est le lot commun de la très grande partie de la population, même si les repas étaient plutôt répétitifs, en revanche, la qualité nutritionnelle du régime était assez bonne. Hein. Les Irlandais étaient
finalement... On peut ne vivre qu'avec la pomme de terre.
Les Irlandais étaient finalement mieux...
Nourris.
Comparativement mieux nourris que d'autres paysans d'Europe continentale. Mais donc du coup, avec le mildiou, plus de nourriture et plus de semences pour la récolte suivante. Et voilà pourquoi cette épidémie qui dure pendant 4 ans, 5 ans, a véritablement jeté à bas tout l'édifice social et démographique de l'Irlande.
D'autant plus que les landlords réclament encore leur argent,
bien ou
les céréales, et on exporte des céréales en même temps que les Irlandais meurent de faim. Les chiffres sont un peu incertains toujours, mais on peut évaluer le nombre de morts à plus d'un million, et les départs que cela va provoquer, entre 1,5 million et 2 millions, n'est-ce pas Philippe Chassaigne?
Oui, on a même une fourchette haute qui va jusqu'à 2,3 millions, mais bon, l'estimation la plus couramment retenue, c'est entre 1,5 million et 2 millions de départs, tout à fait.
Quand on compare à une grande migration d'aujourd'hui, le motif économique l'emporte, ce qui est le cas de toutes les migrations venues d'Afrique, en particulier d'Afrique subsaharienne, chez nous, et ce qui n'est pas le cas, bien sûr, pour l'essentiel, des immigrants venus de Syrie.
Oui, là, effectivement, on a deux types de causes de migration très, très différentes. Mais émigrer, quitter son pays en raison des difficultés économiques, c'est une des causes traditionnelles de l'émigration. Mais là, effectivement, pour ce qui est de l'Irlande au XIXe siècle, le parallèle, la concordance des temps avec aujourd'hui est particulièrement nette.
Cela est vrai aussi de la manière dont c'est malheureux ceux qui ont survécu, puisqu'il y a eu 1 million de morts, je le disais, 1,5 million ou 2 millions qui s'en vont en quelques années. La façon dont ils sont transportés évoque assez dramatiquement ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants venus d'Afrique ou du Proche-Orient.
Oui, ce sont des migrations massives et par conséquent, il faut trouver des bateaux pour transporter ces gens qui veulent quitter une terre de désolation et de famine.
Les gens de mer qui vont, par exemple, les bateaux canadiens qui viennent chargés de bois et qui, au lieu de rentrer à vide à la place du bois, installent des immigrants dans des conditions de promiscuité et sanitaire horribles.
Oui.
Cela évoque un peu ce qui se passe aujourd'hui. Je ne force pas le trait.
Peut-être un peu quand même, sans vouloir trop charger le débat, parce que aujourd'hui, ce sont vraiment des navires qui sont affrétés sur les côtes de Libye. Enfin, ils n'ont rien à porter. Il n'y a pas de voyage aller, donc ils sont affrétés sur les côtes de Libye. Ensuite, ils transportent les émigrants. Là, effectivement, pour le cas irlandais, eh bien, ce sont des navires qui font des traversées régulières, au sens de traversent régulièrement l'Atlantique, du Canada vers l'Angleterre. Vous l'avez dit, ils portent du bois en particulier. Et bon, ensuite, l'Angleterre, c'est le pays du libéralisme, et donc Tocqueville parlait de l'amour du gain qui guide les Anglais dans sa description de Manchester en 1835. L'idée, il y a des cales vides. Bon, on va remplir les cales, mais c'est sûr que les conditions de traversée sont extrêmement difficile. D'abord, les personnes qui montent à bord sont des personnes qui sont affaiblies physiquement. Avant de mourir littéralement de faim, eh bien, il y a des maladies qui se développent, des fièvres, le typhus, etc. Et donc, ce sont des personnes qui sont affaiblies physiquement par le manque de nourriture, souvent malades. Et donc, évidemment, les maladies se développent.
Six semaines de promiscuité dans le.
Oui, c'est au moins un mois et souvent 6 semaines. Et les bateaux des années 1840 n'ont évidemment rien à voir avec les Stars of the Seas, des bateaux de croisière que l'on connaît aujourd'hui.
La chronique dit qu'il y a de nombreux rafiaux qui font naufrage avec leurs malheureux passagers.
La marine marchande anglaise était la première marine marchande au monde, mais tous les bateaux, il n'y avait pas de carnet d'entretien, donc tous les bateaux n'étaient pas forcément de la toute dernière génération. Donc, et puis l'Atlantique, c'est un océan qui est agité, surtout en hiver. Donc il y a effectivement des risques, des dangers, il y a des bateaux qui coulent. En fait, il y a différentes façons de traverser l'Atlantique, d'émigrer. Il y a donc ces navires commerciaux. Après, il y a aussi des Irlandais qui peuvent émigrer dans de moins mauvaises conditions parce que ils ont de la famille qui est déjà partie 5 ans, 10 ans auparavant et qui a envoyé de l'argent pour qu'ils puissent acheter un billet de transport. Il n'y a pas de paquebot, bien sûr, mais acheter un billet de transport pour voyager dans des meilleures conditions. Il y a aussi mais là c'est très faible, c'est peut-être un immigrant sur 50, il y a des landlords, des propriétaires qui ont payé la traversée de leurs locataires, de leurs tenants, qui avaient été donc expulsés et qu'ils envoyaient, donc ils se débarrassaient ainsi en les envoyant aux États-Unis.
C'est dans le meilleur des cas quand ils leur donnaient un peu d'argent.
Oui, je dis ça, c'est vraiment 1 sur 50, hein, c'est à peu près, c'est vraiment une minorité.
Regard sur un cas particulier à titre d'exemple, je pense au Larch de Sligo, dont sur 440 passagers, on nous dit que 158 moururent en mer et 150 arrivèrent avec le typhus de l'autre côté de l'Atlantique. Que des 476 passagers du Virginius qui partit de Liverpool, 148 périrent pendant la traversée et 106 furent contaminés par le typhus. Un commissaire de l'émigration a écrit « Si l'on pouvait dresser des croix sur l'eau, la route des émigrants à travers l'Atlantique serait comme un immense cimetière ». On peut imaginer des croix sur la Méditerranée aujourd'hui.
Exactement, c'est ce que le pape François a dit d'ailleurs, il y a un an à peu près, donc déplorant le fait que la Méditerranée était devenue un immense cimetière. Je crois que là, le parallélisme est tout à fait frappant.
Je vois ce qu'écrit un propriétaire philanthrope et réformiste social de Limerick, qui a fait cette traversée au printemps 1847, lui dans de meilleures conditions, mais qui observe les malheureux. Avant d'avoir passé une semaine en mer, écrit-il, l'émigrant est un autre homme. Comment pourrait-il en être autrement? Des centaines de pauvres gens, des hommes, des femmes et des enfants de tous âges, de l'idiot de 90 ans qui divague aux nourrissons, blottis les uns contre les autres, sans lumière, sans air, vautrés dans la saleté et respirant une atmosphère fétide, découragés. Les patients qui ont la fièvre sont étendus entre ceux qui sont sains, dans des couchages si exigus qu'ils n'ont pas la possibilité, en changeant de position, de s'agiter comme le font naturellement les malades. Par leurs plaintes délirantes, ils dérangent ceux qui sont autour d'eux et ils les prédisposent, par les effets de l'imagination, à subir la contagion, alors qu'ils vivent sans nourriture et sans médicaments, sauf quand ils sont administrés occasionnellement par une main charitable. Ils meurent sans la voix d'une consolation spirituelle et sont plongés dans l'océan sans les rites de l'Église.
Tout à l'heure, vous évoquez le cas d'un navire qui est parti de Liverpool. Justement, ça me permet d'indiquer ici que les Irlandais ne sont pas tous partis, loin s'en faut, en direction du continent américain. Une part non négligeable des émigrants irlandais s'est dirigée vers la Grande-Bretagne, pays qui était à ce moment-là en pleine révolution industrielle. Il y avait donc des perspectives d'emploi, des perspectives de travail beaucoup plus rémunérateurs que ceux dont ils pouvaient disposer en Irlande. Et donc on trouve là une raison économique à cette émigration.
Parce qu'il ne s'agit plus d'élite, c'est la grande différence avec les émigrés syriens d'aujourd'hui, qui sont souvent en provenance de classe moyenne, puisque ce sont ceux qui ont pu pourvoir aux frais du voyage, alors que ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne, c'est tout près. Et l'on voit des petites Irlandes, comme on dit, se développer dans les villes, à Liverpool, à Londres ou à Glasgow, et où s'entassent dans des conditions de promiscuité horribles, là encore, des populations faméliques.
Oui, les quartiers irlandais deviennent, après 1840-1850, une des caractéristiques du paysage urbain des grandes villes industrielles et de la capitale britannique. Il y a des petites Irlandes, oui, à Manchester, à Liverpool, à Londres. Il y a le quartier de St. Giles, donc pas très très loin de Trafalgar Square, qui est le quartier irlandais le plus emblématique jusqu'aux années 1860-70, parce qu'après il est détruit pendant les opérations d'urbanisme. Ce qui révulse les Anglais, c'est justement la saleté des Irlandais, parce que les Irlandais, en fait, implantent au cœur de leur ville, eh bien, le mode de vie qu'ils avaient dans leur île. J'évoquais tout à l'heure le fait que le paysan irlandais qui avait un cochon, eh bien, le cochon vive avec la famille. C'est ce qui se passe aussi dans ces quartiers irlandais où des familles s'entassent dans une pièce, deux grands maximum.
Alors cela conduit à la Grande-Bretagne, l'autre côté de l'Atlantique, à considérer la manière qui nous préoccupe aussi aujourd'hui très directement, qui nous intéresse spécifiquement, la manière dont les pays d'accueil ont pu traiter les émigrés qui sont pour eux des immigrés, tous ceux en particulier qui sont arrivés à bord de ces bateaux cercueils que nous évoquions, par exemple aux États-Unis, par exemple au Canada, en dehors même de la Grande-Bretagne, avec un accueil évidemment très, très inégal.
Inégal, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. De toute façon, Canada ou États-Unis, c'était dans les années 1850 des pays, des sociétés très majoritairement protestantes. Et donc, dans lesquels les sentiments anti-catholiques, anti-papistes, étaient très prononcés, en particulier au Canada, mais aux États-Unis quand même aussi, on retrouve, mais je crois que c'est plus marqué au Canada. Et donc, l'arrivée de ces Irlandais catholiques, c'est l'arrivée... si je dis l'antéchrist, on va croire que j'exagère, mais j'exagère à peine. Ils sont vraiment considérés comme étant donc des suppôts du pape, des personnes peu fiables, qui ont davantage de loyauté envers le pape qu'envers leur patrie d'adoption. Ils ont rajouté à cela donc toutes les considérations sur le mode de vie très traditionnel que j'évoquais. On a un cocktail d'éléments qui explique pourquoi il y a au départ un phénomène de rejet. Oui, alors bien sûr, nos auditeurs pourront se dire, mais quand même, c'était des chrétiens, ils étaient catholiques, donc c'était des chrétiens. Mais il faut voir qu'aux yeux des protestants, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Pardon, pas aujourd'hui, bien sûr, mais dans le contexte du 18e-19e siècle, pour les protestants, les catholiques sont des hérétiques. Donc, on n'a pas l'idée d'une religion chrétienne avec différentes confessions qui, grosso modo, se valent l'une l'autre. C'est à peu près ce que l'on considère aujourd'hui. Il y a cette hostilité fondamentale envers les catholiques. Mais remarquez, cela n'a pas tellement changé, finalement, parce que, même si c'est beaucoup plus policé la plupart du temps, il y a quelques années, le pape Benoît XVI effectuait une visite en Angleterre, eh bien, on a vu des manifestations d'hostilité envers le pape, des manifestations d'anticatholicisme. Et lorsque le pape François s'est rendu aux États-Unis récemment, il y a eu aussi des manifestations d'hostilité envers lui, des manifestations d'anticatholicisme. Évidemment, au quotidien, il n'y a plus de bagarres, il n'y a plus d'affrontements interconfessionnels comme il pouvait y avoir dans les rues de Liverpool dans les années 1890. Mais on voit bien que si l'on gratte un peu, on voit ressurgir quand même cet antipapisme, cet anticatholicisme qui est fondamental au protestantisme du XIXe siècle.
Il y a pendant longtemps, aux États-Unis, un refus des Irlandais, avec parfois des affiches. On n'embauchera pas d'Irlandais. C'est ce qu'évoque cette chanson de 1862, interprétée par Pete Seeger en 1949, et qui s'appelle « No Irish Need Apply », que les Irlandais ne viennent pas se présenter ici pour chercher du travail.
I'm a decent boy just landed from the town of Ballyfad. I want a situation, yes, and want it very bad. I seen employment advertised as just the things as I, but the dirty's bow been ended with no Irish need apply. Hoof, says I, but that's an insult, though I get the place I'll try. So I went to see the blackguard with his no Irish need apply. Some do think it a misfortune to be christened Potter Dan, but to me it is an honor to be born an Irishman. I started out to find the house, I got it mighty soon. There I found the old chap seated, he was reading the Tribune. I told him what I came for, when he in a rage did fly. No, he says, you are a paddy, and no Irish need apply. Oh, well, I gets my dander rising, I'd like to black his eye. To tell an Irish gentleman, no Irish need apply. Some do think it a misfortune to be christened Potter Dan, but to me it is an honor to be born an Irishman. I couldn't stand it longer, so a hold of him I took. I gave him such a welting as he'd get at Donnybrook. He hollered Millie a Murther, and to get away did try, and swore he'd never write again, no Irish need apply. Well, he makes a big apology, I bid him then goodbye, saying when next you want a beating, you write no Irish need apply. Some to think it a misfortune to be christened Potter Dan, but to me it is an honor to be born an Irishman.
C'est l'histoire d'un jeune homme irlandais qui essaye de trouver du travail et qui se heurte à cette affichette « Irlandais s'abstenir » et qui va du coup, puisque c'est une malchance d'être baptisé Pat ou Dan, va aller s'en prendre à celui qui refuse de l'embaucher.
Et donc effectivement, à la fin de la chanson, il se bat avec l'employeur potentiel.
Il lui poche un œil.
Voilà, il donne une bonne raclée, donc comme celle qu'il aurait pris à Donnybrook. Bon, Donnybrook est une ville irlandaise. Désormais, on peut imaginer que cet employeur ne mettra plus en place de pratiques discriminatoires envers les Irlandais.
Et puis, on pense aussitôt au film de Scorsese, le fameux film sur la guerre des gangs, où on voit s'opposer les Irlandais immigrés et les anciens immigrés. Installé et généralement protestant jusqu'à des affrontements mortels.
C'est ici que se construit notre pays, monsieur Cutting. Les Américains de demain.
Moi, je ne vois pas d'Américains. Je vois des envahisseurs. Des Irlandais de malheur qui feront pour un nickel ce qu'un nègre fait pour un dime et ce qu'un blanc faisait pour un quart de dollar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donnez-moi une seule chose qu'ils ont apporté.
Leur vote.
Ah, vous croyez? Ils votent comme leur dit de voter l'archevêque, et l'archevêque à qui il obéit? Au souverain pontife au chapeau pointu qui trône sur son siège à Rome.
Bill a des sentiments mitigés à l'égard des Irlandais.
Bill, envoyez ces braves gens aux urnes pour qu'ils votent le plus régulièrement possible. Une somme coquette sera prévue pour chaque voix en faveur du Tammany.
Mon père a sacrifié sa vie pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Massacré par les Britanniques avec tous ses hommes le 25 juillet 1814, Anno Domini. Vous croyez que je vais vous soutenir pour profaner son héritage? En livrant la nation entière en pâture à une bande de gueux qui ne lutte pas pour lui? Et pourquoi? Parce que ces pouilleux débarquent dans ce pays pour quémander un bol de soupe?
Ce défi que j'ai lancé, comme le veulent les antiques lois du combat, nous livrerons bataille sur ce territoire d'élection pour qu'il soit décidé une fois pour toutes qui aura le contrôle exclusif des Five Points. nous autres natifs, pour avoir acquis par la naissance le droit de vivre sur cette bonne terre d'Amérique, où les étrangers venus la souiller nous envahissent. Comme le veulent les antiques lois du combat, je relève le défi de ces prétendus natifs qui martyrisent notre peuple sans vergogne. Mais à partir de ce jour, vous ne nous persécuterez plus, car je le proclame, la main qui tentera de nous arracher à cette terre sera aussitôt tranchée. Et puis-je, le dieu des chrétiens, guider ma main pour anéantir vos hordes de suppôts du pape. Préparez-vous à accueillir le seul vrai dieu.
Une autre raison pour laquelle les Irlandais étaient regardés de façon suspicieuse, eh bien, c'était l'organisation des jeunes gens de la communauté irlandaise, donc en gang, en bande, hein, des bandes qui agissaient souvent à la frontière de la légalité. Bon, il ne faut pas non plus, le film présente une version dramatisée, c'est un film. La bande de jeunes, c'est à la fois un élément intégrateur, ça permet de structurer les adolescents, mais en même temps, c'est vrai que, bon, souvent il y a des bandes rivales, parce que les Irlandais, oui, mais en fait, il y a des Irlandais, avec des quartiers qui reposent sur des origines géographiques différentes, et donc il va y avoir des bandes qui sont liées à ces groupes. Et ma foi, tous les Irlandais ne s'entendent pas forcément très très bien, même s'ils sont tous catholiques, c'est une autre question.
On note qu'il y a en 1850, c'est-à-dire peu de temps après la grande famine, the Great Hunger, il y a 26% de New Yorkais qui sont nés en Irlande.
Oui, New York a vraiment été une des destinations principales de l'immigration. Même lorsque les Irlandais partaient pour le Canada, parce que c'était un peu plus court, parce que c'était moins cher aussi si les transports faisaient dans le cadre de l'Empire britannique, entre la métropole et ses colonies, il était assez fréquent que du Canada, il passe ensuite aux États-Unis et aille s'installer, en particulier à New York. Donc oui, une communauté irlandaise qui est très importante et une communauté qui ensuite va s'organiser. New York et Boston se voient dotés assez rapidement, en tout cas Boston, de maires irlandais.
Avec des policiers qui sont souvent irlandais.
Oui. Et des Irlandais qui contrôlent le Parti démocrate. Le Parti démocrate est vraiment le parti qui aide à l'accueil des Irlandais. Le Parti démocrate, c'est aux États-Unis le parti pour lequel vont voter ceux qui ne sont pas blancs, anglo-saxons et protestants. Donc en l'occurrence, les Irlandais, ils sont blancs, mais ils sont pas anglo-saxons, ils sont des Celtes. Alors que les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, votent pour le parti républicain. Donc le Parti démocrate, c'est le parti des Irlandais. Et puis rapidement, les Irlandais prennent pas le contrôle de tout le Parti démocrate, mais en tout cas, dans certaines villes, ils contrôlent la machine politique, la machine électorale du parti, et deviennent la communauté forte de la ville.
Le fameux Tammany Hall, voilà. Qui a une réputation sulfureuse.
Exactement, oui, parce qu'on sait très bien qu'au XIXe siècle, les municipalités américaines, les machines politiques locales sont marquées par la corruption.
Et alors, sur la longue durée, les Irlandais se sont, pour beaucoup d'entre eux, fort bien intégrés, hein, démentant toutes les prévisions pessimistes des habitants antérieurs, des colons antérieurs. Je pense évidemment au cas symptomatique, j'allais dire, pour vous surprendre, Grace Kelly, qui a été princesse de Monaco, mais peut-être plus significatif encore, John Kennedy, le président Kennedy, dont l'arrière-grand-père est arrivé en Irlande, dont le grand-père a commencé à faire fortune dans la restauration, dont le père a fait une énorme fortune et est devenu notamment ambassadeur en Grande-Bretagne, Joe Kennedy. Il a fait toujours beaucoup d'enfants, dont l'un a émergé, en dehors de Robert, son frère ministre de la Justice, John Kennedy. Et voici une archive qui le montre retournant de façon symbolique, peut-être légèrement électorale d'ailleurs, sur la terre de ses ancêtres en Irlande.
Inter-actualité.
Le président Kennedy, lui, était au pays de ses ancêtres, l'Irlande. Et ce matin, il s'est entretenu pendant une heure avec le premier ministre irlandais.
Oui, mais l'humeur du président ne semblait pas être aujourd'hui au travail. Et même s'il n'en attache pas un trop grand crédit à l'opinion selon laquelle ce voyage en Irlande serait destiné à lui attirer les voix de la colonie irlandaise aux États-Unis, il faut bien reconnaître que le président a davantage recherché le contact de la foule que celui des hommes politiques. À New Ross, par exemple, il a assisté à une cérémonie organisée sur le quai où son arrière-grand-père s'embarqua pour le Nouveau Monde. « Lorsque mon ancêtre partit, déclara le président, il n'emportait que deux choses, la foi religieuse et l'attachement à la liberté. » et au rire de l'auditoire, il a ajouté « S'il n'était pas parti, je travaillerais aujourd'hui à la compagnie Albatros. » La compagnie Albatros, c'est une petite usine locale de traitement de fumier. M. Kennedy s'est encore rendu à la ferme familiale des Kennedy, à une centaine de kilomètres de là. Madame Ryan, cousine éloignée, très éloignée, l'a embrassée sur les deux joues à la porte de la maison de famille, et ensuite, avec tous les cousins et cousines, il a pris une tasse de thé et une tranche de gâteau. En les quittant, M. Kennedy a déclaré en riant qu'il ne pouvait leur promettre de revenir qu'une fois tous les 10 ans.
Vous avez entendu la voix de Michel Péricard. Nous étions dans Interactualité le 27 juin 1963. Kennedy va être assassiné peu après, en novembre.
Ce qui a grandement contribué, je pense, à l'intégration des Irlandais dans la nation américaine, c'est que finalement, après 1880, il y a ce qu'on appelle la nouvelle immigration, donc l'immigration en provenance d'Europe méditerranéenne, d'Europe orientale. Et donc du coup, les Irlandais me paraissaient, même si au départ ils n'étaient pas vraiment WASP, ils me paraissaient beaucoup plus WASP, enfin en tout cas pas protestants, enfin ils me paraissaient beaucoup plus blancs anglo-saxons que les Italiens, les Ruthènes, les Grecs, les Russes, les Juifs de Pologne. Donc cette nouvelle immigration a déplacé en quelque sorte les craintes, les inquiétudes, les anxiétés sur ces populations venues d'Europe méditerranéenne et orientale et a facilité l'intégration des Irlandais. Je crois que ça, c'est très net.
Les immigrés, souvent, souhaitent que après eux s'arrête l'immigration.
Ah, ça arrive. Aussi.
Il y a un élément qui est important et qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui, c'est la crainte du monde ouvrier installé de voir une concurrence, qui amènerait à une baisse des salaires.
C'est très vrai, d'autant que les Irlandais étaient connus pour accepter des travaux peu payés, suivant les critères de la société d'accueil. Mais pour les Irlandais, même un travail peu payé, suivant les critères britanniques, américains ou canadiens, c'était un travail qui était beaucoup mieux payé que ce qu'ils pouvaient avoir en Irlande. On a cet aspect assez, qui peut nous paraître paradoxal, mais qui s'explique très facilement par cela, de voir les syndicats qui se développent donc de façon très importante en Grande-Bretagne après 1860 et aux États-Unis, les syndicats être hostiles aux immigrants irlandais parce que effectivement ils cassent le marché du travail.
Avant que les immigrants irlandais ne pénètrent eux-mêmes les syndicats, voilà, et n'en deviennent maîtres, et à ce moment-là, ce sera contre de nouveaux venus qu'ils vont se tourner.
Absolument. Encore une fois, ce seront les Italiens, les Juifs polonais qui vont se trouver accusés à leur tour de casser le marché du travail.
Est-ce que le souci du chômage intervient dès ce moment-là ?
Le souci du chômage intervient, oui, parce que en Grande-Bretagne, il y a des périodes de chômage cyclique plus prononcé à partir des années 1875-1880. Aux États-Unis, même si globalement la seconde moitié du 19e siècle, en tout cas après la fin de la guerre de sécession et jusqu'en 1914, c'est une période de très forte croissance économique, il y a comme partout des cycles et donc il y a des périodes de ralentissement. À ce moment-là, effectivement, le chômage devient important. Ce n'est jamais un chômage très durable, mais c'est un chômage qui peut concerner des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Donc un chômage qui n'est pas encore de masse, mais qui n'est plus non négligeable.
À propos de la géographie de l'émigration, Philippe Chassaigne, on peut noter que, en dehors de ceux qui vont vers les États-Unis ou vers le Canada, d'autres vont vers l'Australie et vont, d'ailleurs comme au Canada, renforcer l'emprise de la Grande-Bretagne sur ses dominions.
L'Australie est une destination qui est certes lointaine, mais pour les Irlandais, c'est un pays dans lequel l'intégration est beaucoup plus rapide. D'abord parce que il y a des Irlandais pratiquement dès le début de la colonisation anglaise de l'Australie, puisque dans les premiers prisonniers qui avaient été déportés en Australie, en 1788, dans la première flotte, First Fleet, il y avait des Irlandais. Bon, ces prisonniers, ensuite, après avoir purgé leur peine, ont préféré rester en Australie plutôt que de retourner dans une métropole qui ne les attendait pas, où ils n'auraient pas été les bienvenus. Donc ensuite, ils ont fait souche. Et lorsque, dans les années 1840-50 et même après, donc de nouveaux Irlandais arrivent, eh bien, il y a déjà des personnes qui peuvent les accueillir, qui peuvent les intégrer. Il y a un itinéraire, moi, que je trouve tout à fait emblématique, c'est celui de Charles Gavan Duffy, qui a vécu entre 1816 et 1903, qui était un nationaliste irlandais qui a participé à la révolte de 1848, la révolte de la jeune Irlande, qui est la dernière révolte du 19e siècle des Irlandais contre la domination britannique, qui ensuite a été député irlandais à la Chambre des communes entre 1852 et 1856, qui finalement, considérant qu'il n'y avait aucun avenir pour les Irlandais en tant que nation au sein du Royaume-Uni, eh bien part en Australie, dans la colonie de Victoria en 1856, dont la capitale est Melbourne. Dès qu'il arrive, il est élu au Parlement colonial. Ensuite, il devient un homme politique en vue et il a été brièvement, en 1871-1872, il a été Premier ministre de l'État de Victoria. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que le nationaliste irlandais, eh bien, a, en tant que premier ministre de l'État de Victoria, prêté allégeance à la reine, puisque c'était bien la souveraine de la colonie de Victoria. Et ensuite, il était anobli, donc il devient chevalier en 1873. Finalement, après, il quitte l'Australie, il se retire en France en 1880, où il meurt en 1903. Et donc là, un itinéraire tout à fait emblématique de ces opportunités, on dirait en franglais, enfin de ces occasions qui s'offraient aux Irlandais en Australie. Et il y en a bien plus en Australie qu'au Canada, par exemple.
Voilà un cas d'homme qui se soumet à l'autorité royale, alors que ce n'est pas le cas de beaucoup d'Irlandais aux États-Unis, puisqu'ils ont constitué un appui essentiel pour les révoltes successives de l'Irlande contre la couronne britannique, hein, les Pâques sanglantes de 1916 et ensuite. C'est vraiment le lieu où on trouve de l'argent, de l'appui et parfois le retour d'un certain nombre d'Irlandais américains pour venir se battre contre Londres, contre l'Angleterre.
Les communautés irlandaises des États-Unis ont vraiment agi comme la base arrière des mouvements nationalistes dès les années 1870. Il y a les nationalistes, les Fenians, la fraternité Fenian, qui naviguent régulièrement entre l'Irlande et les États-Unis. Et aux États-Unis, en 1865-66, ils envisagent même d'organiser une opération militaire et de s'emparer, rien que cela, des colonies britanniques d'Amérique du Nord, qui n'ont pas encore été unifiés sous le nom de Canada, pour les attribuer aux États-Unis et faire un seul continent d'Amérique du Nord sous la seule autorité de la République américaine. C'est romantique, c'est complètement fou, mais je trouve que c'est quand même assez sympathique.
C'est d'ailleurs éclairant aujourd'hui, puisque l'on distingue, il le faut évidemment, les migrants économiques qui viennent en Europe et les migrants politiques, en particulier ceux qui viennent du Proche-Orient et de Syrie. On peut penser que les premiers sont destinés à rester chez nous, et les seconds, qu'ils aspirent à revenir dans leur pays.
Oui, une fois que la situation aura évolué.
Les Irlandais ne reviennent pas en Irlande, mais leur rêve d'y revenir représente l'autre volet. Oui,
absolument, c'est le rêve d'y revenir lorsque l'Irlande sera devenue une nation.
Alors Philippe Chassaigne, je ne voudrais pas que nous quittions sans évoquer l'appui qu'un certain nombre de gens à l'époque, de philanthropes, de politiques, ont pu apporter à ces émigrants pour essayer de soulager leur effroyable douleur, pour essayer de les aider dans l'effroyable chemin qu'ils étaient en train de parcourir.
Il y a une tradition philanthropique qui est tout à fait réelle dans l'Angleterre du 19e siècle, dans la mesure où, bon, on le sait, il n'y a pas de, entre guillemets, de sécurité sociale, d'assurance sociale. Donc le secteur philanthropique est extrêmement, extrêmement répandu. Le spectacle de ces centaines de milliers d'Irlandais affamés, malades, qui quittent un pays en proie à la famine, a effectivement ému des organisations caritatives, des individus, et qui ont justement pu organiser du secours sur place en distribuant de l'alimentation, de la nourriture, alors que les autorités britanniques se sont caractérisées après 1846 par leur absence de politique, leur absence d'intervention, et puis également en favorisant le départ, l'émigration, en subventionnant des transports à bord de navires, donc en payant le prix du voyage pour ceux qui étaient candidats au départ. Oui. Il y a un élan de mobilisation caritative dans le monde entier. Et même dans les parties, bon, en Europe aussi, bien sûr, mais même dans les parties les plus reculées de l'Empire. Parce qu'en Inde, par exemple, des collectes sont organisées pour envoyer de l'argent et aider les Irlandais victimes de la famine. Il y a même aux États-Unis une tribu indienne qui a organisé une collecte pour envoyer une somme qui n'était pas entièrement symbolique pour acheter de la nourriture et la distribuer aux Irlandais affamés.
Et puis cet argent a atteint ses limites assez vite.
Oui, les limites ont été vite atteintes parce que l'ampleur des besoins était considérable.
Alors pour finir, Philippe Chassaigne, je voudrais que nous évoquions la complexité de la mémoire de cet événement. Je pense au succès d'un certain nombre d'ouvrages contemporains, par exemple The Great Hunger en 1962, qui a été un best-seller parmi les Irlandais du monde entier, et La Grande Famine, et qui continue de porter des accusations très fortes à l'égard de la Grande-Bretagne.
Oui, il y a une véritable cicatrice qui ne s'est jamais refermée. En plus de l'oppression politique, la famine, son souvenir, le souvenir du million de morts, a contribué à creuser un fossé qui a été très difficile à combler entre les Britanniques et les Irlandais. le voyage de la reine Elisabeth II en Irlande en 2011 a été, de ce point de vue-là, un élément très important sur le chemin de la réconciliation entre les deux peuples. Mais on se rend compte qu'il y a toujours ce souvenir. C'est ce que dit John Mitchell, parlant de famine. Il dit non, ce n'est pas la famine. C'est une famine, c'est starvation. C'est le fait d'affamer un peuple. Il n'y a pas de famine lorsqu'un pays regorge de nourriture et qu'il l'exporte. Parce qu'effectivement, pendant que les Irlandais regardaient le mildiou détruire leur récolte de pommes de terre, eh bien, il y avait du blé, il y avait du bétail qui était exporté vers l'Angleterre, ou ailleurs d'ailleurs, puisque 1845-46, au début de la famine, ceci est le moment où l'Angleterre passe au libre-échange et donc se met à exporter ses produits alimentaires dans le monde entier. Et donc, le gouvernement libéral qui se met en place en 1846 change de politique. Le gouvernement conservateur de Robert Peel avait mis en place une politique de distribution, enfin d'aide alimentaire, de distribution donc de nourriture, une politique de grands travaux pour faciliter les déplacements de l'aide alimentaire sur l'île. Le gouvernement libéral qui lui succède, eh bien lui considère que non, il ne faut rien faire, il faut laisser le jeu du marché fonctionner. Et ce sont les phrases de Trevelyan disant que l'Angleterre a bien assez fait pour l'Irlande, que tout ce qu'elle pourra faire après ne fera que pervertir l'esprit des Irlandais. En gros, l'idée, c'est que plus on donne aux Irlandais, moins ils veulent faire quelque chose par eux-mêmes. Et donc, c'est déjà le début de la culture de l'assistance.
Charles Trevelyan, c'est le grand auteur, le haut fonctionnaire qui a eu à s'occuper de l'Irlande et qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, qui développe en gros l'idée que Dieu a envoyé cette calamité aux Irlandais pour les punir, parce que ce sont des mécréants, et qu'ils se comportent d'une façon que Dieu ne peut que blâmer.
Non, ils sont toujours agités, toujours prêts à prendre les armes.
Merci beaucoup Philippe Chassaigne. Les deux ouvrages de vous que je souhaite citer, il y en a d'autres sur notre site naturellement comme d'ordinaire. C'est d'abord La Grande-Bretagne et le Monde de 1815 à nos jours, qui est paru chez Armand Collin en 2009. Et puis Une histoire de l'Angleterre des origines à nos jours également, aux éditions Flammarion. Il est paru, ce livre est paru en 2008, une nouvelle édition, et sur le point d'être proposé en librairie. Le classique sur l'histoire d'Irlande, c'est celui de Pierre Johannon, en français, « Histoire de l'Irlande et des Irlandais » chez Perrin en 2006. Nous avons également utilisé le livre de Fabrice Ben-Simon et Laurent Colantonio, qui s'appelle « La grande famine en Irlande ». C'est un livre qui est d'actualité universitaire, non ?
Tout à fait, oui, parce que la grande famine, c'est une des questions de civilisation qui est au programme de l'agrégation d'anglais l'année dernière et cette année.
Très bien, alors notre émission sera également au programme de l'agrégation d'anglais. Et puis, un excellent petit livre, comme toujours dans cette collection découverte, un petit livre de Peter Gray qui s'appelle « L'Irlande au temps de la grande famine », traduit fort bien par Pascal Froment. Vous pourrez, je le répète, trouver une bibliographie complète sur notre site. Vous pourrez trouver les références et documents sonores utilisés et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. La semaine prochaine, nous serons en direct depuis Blois où se déroule le grand événement des rendez-vous de l'histoire. Mon invité sera Emmanuel de Varesquel. Le thème général des rendez-vous étant cette année les empires. Nous parlerons de Napoléon et son empire sous un éclairage spécifique, puisqu'il s'agira, c'est également très actuel, de la question du renseignement. Napoléon, tout savoir sur tous, point d'interrogation. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec Élise Leu à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.